À l'émission Marcher en creusant, nous vous présentons une émission de la série ayant comme titre « Vivre de tout son être », animée par le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.
Nous avons vu dans les émissions précédentes qu'il y a actuellement une quête thérapeutique et spirituelle qui prend une très grande diversité de visages. Et nous avons vu aussi comment le spirituel et le thérapeutique s'entremêlent profondément. J'ai aussi fait remarquer que si on ne peut pas parler vraiment d'un retour du religieux, on peut parler d'un retour d'intérêt pour de la spiritualité, de la mystique. On parlera en sociologie de recomposition des croyances, etc. Et on peut se poser la question, mais pourquoi aujourd'hui il y a-t-il tellement de gens qui se tournent vers des expériences spirituelles, vers des expériences thérapeutiques, alors que il y a quelques années, c'était moins important, même si la santé a toujours été importante. Mais surtout, alors qu'on avait l'impression que l'on allait sombrer dans un matérialisme tel ou un individualisme tel que la question de la religion, de la spiritualité n'aurait plus d'importance. Alors voilà pourquoi cette quête nouvelle, diversifiée, qui va en s'amplifiant. Nous vivons aujourd'hui dans une époque qui traverse énormément de fragilité. Nous aurions pu rêver, quand nous étions dans les années 60-70, d'un monde qui, à partir de l'an 2000 et après, serait un monde de paix, de réconciliation, de justice. Ceux qui m'écoutent et qui ont à peu près la génération des 50-55 ans, se souviennent sans doute des grands rêves des années 60-70, et particulièrement en 68, à l'époque où il était interdit d'interdire, et on était parti vers un monde qui allait trouver un nouvel équilibre grâce au progrès de la science, des technologies, des rationalités. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vécu une crise importante à la suite de ce qui s'est passé avec la science et la raison depuis que Max Weber, à l'écoute de la philosophie des Lumières, comme on appelait cela, disait que pour finir, la victoire de la raison allait provoquer ce qu'on appelle un désenchantement du monde. Un désenchantement du monde dans le sens qu'on n'aurait plus besoin d'utiliser les esprits, les divinités, les religions, les croyances pour enchanter le monde dans le sens d'apporter des réponses aux questions qui n'en avaient pas. Or, disait Max Weber, ce sociologue des religions, plus la raison a avancé, plus Dieu a reculé, et c'est comme si chaque grande victoire de la raison provoquait un recul des croyances de la religion et de Dieu. Ce qui explique d'ailleurs que, en France entre autres, mais pas uniquement, à peu près dans tout l'Occident, au fur et à mesure que les sciences ont progressé, que le matérialisme s'est installé, que le progrès matériel s'est amélioré, eh bien, les gens ont commencé à déserter les églises, les lieux spirituels, et il faut dire que aucune société ne peut se dire à l'abri de cela. Moi-même ayant circulé aussi bien en Afrique qu'en Inde et ayant travaillé là-bas, je me suis bien rendu compte que quand les gens ont accès au nouveau mode post-moderne, dirions-nous aujourd'hui, ce nouveau mode de vie, eh bien, il y a une désaffection pour une certaine dimension religieuse et un intérêt pour les choses matérielles. Donc c'est un processus qui est assez normal. En tout cas, Max Weber avait annoncé un désenchantement du monde. Dans les années 60-70, on rêvait d'un monde qui serait arrivé à résoudre les problèmes de société, on vaincrait toutes les maladies, Il n'y aurait plus d'injustice sociale, il n'y aurait une plus grande unité politique et géopolitique, il n'y aurait plus de fraternité planétaire. Et en définitive, aujourd'hui, on commence à se rendre compte que tout cela n'est pas si sûr. Et déjà, d'ailleurs, après les années 70, je parle ici pour l'Europe, mais plus tôt encore, nous connaissons ce grand mouvement auquel j'ai fait allusion, dont le Nouvel Âge a été une expression. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire les comptes et se dire, mais est-ce qu'effectivement, ce progrès scientifique, ce progrès matériel a apporté ce bonheur annoncé, cette sécurité annoncée? Et il faut voir qu'à côté de progrès incontestables d'amélioration du niveau de vie, du confort, d'une sécurité, il y a aujourd'hui des fractures grandissantes entre le Sud et le Nord. Nous vivons dans des sociétés à multiples vitesses, où des gens sont de plus en plus riches et d'autres de plus en plus pauvres. Dans des sociétés où on avait cru qu'on allait tous avoir accès au travail, on voit qu'il y a un nombre important de gens qui non seulement sont sans emploi, mais sont tout simplement marginalisés. Et ce qu'on appelle les nouveaux pauvres, ces personnes qui n'osent pas montrer qu'elles sont pauvres, mais qui sont dans une précarité extrême, et cela, on la rencontre tout autour de nous. Nous vivons une expérience de fragilité grandissante. Et sans vouloir s'embarquer dans des scénarios catastrophes, il faut bien voir que, entre autres, ce qui s'est passé comme conséquence sur le plan international des événements du 11 septembre, par exemple, 11 septembre 2001, eh bien, il y a eu des expériences excessivement tragiques qui ont montré la fragilité de nos sociétés. Donc, depuis un certain nombre d'années, des personnes se rendent compte qu'il y a une fragilité sociale, une fragilité politique et une fragilité personnelle qui met en question ce grand rêve. Ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt pour des réponses alternatives qui ne soient pas simplement la raison, la technique et le progrès scientifique, sans pour autant dénier ces dimensions, mais qui mettent l'accent sur une dimension de sagesse, de spiritualité, de quête de sens et de nouvelles thérapies alternatives. Cette demande a trois visages. On peut parler d'une demande existentielle, d'une demande culturelle et d'une demande idéologique. La première demande, c'est la demande existentielle. C'est une demande qui vient du cœur de l'existence, de cette fragilité. Nous savons qu'il y a une grande instabilité sur le plan familial. Beaucoup de familles monoparentales, des familles recomposées, beaucoup de jeunes qui se retrouvent avec deux papas et deux mamans et qui voyagent d'un week-end à l'autre, de l'un à l'autre. Et certainement parmi nos lecteurs, il y en a, parmi nos auditeurs, des gens qui connaissent des situations où, eh bien, ils peuvent être tiraillés entre le père ou la mère, ou entre le nouveau couple fait à la maison et le nouveau couple fait par le conjoint qui est parti. Il y en a aussi qui se retrouvent avec ou bien seulement papa ou seulement maman et qui parfois ont de la peine à se structurer sur le plan affectif. Il y a aussi la situation qui est générée par ce déséquilibre ou ces mutations, c'est qu'un certain nombre d'enfants n'ont plus de père dans le sens psychologique du terme, c'est-à-dire de quelqu'un qui représente la loi. Parce que, eh bien, il y a toute cette culpabilité des adultes par rapport au fait qu'on ne peut pas donner la sécurité ou une famille classique, enfin ce qui était classique dans le temps à l'enfant. Et donc, il y a un certain nombre de jeunes, d'adolescents qui ne s'entendent plus jamais dire non, qui n'ont pas l'occasion de se construire une colonne vertébrale, qui n'ont pas fait l'expérience de la frustration. Or, nous savons que c'est tout de même la frustration qui construit la colonne, qui permet à une personne de se tenir droite, d'accepter que tout n'est pas possible, de renoncer à la toute-puissance. Alors, sans vouloir porter aucun jugement sur les personnes qui vivent des situations matrimoniales difficiles et douloureuses, il faut reconnaître qu'il y a des personnes qui ont été fragilisées à cause de cela. Fragilité professionnelle, fragilité conjugale, fragilité affective, mais aussi dans le domaine professionnel. Les délocalisations, l'obligation d'excellence, des situations où on est demandeur d'emploi de longue durée, ce qui entraîne un doute sur l'identité sociale, un doute sur l'identité même du père à la maison, beaucoup de jeunes diplômés qui n'arrivent pas à trouver de travail ou qui se sentent exploités parce qu'on leur donne un travail à temps partiel sans les déclarer comme il le faudrait ou sans les embaucher. Il y a un livre écrit par Christophe Dejour qui s'appelle « Souffrance en France » qui montre comment on en est arrivé à une banalisation du mal en ce qui concerne le fait justement de donner des conditions de travail, par exemple au cadre, ou bien de faire une pression qui peut aller jusqu'au harcèlement moral et qui entraîne des crises importantes d'un point de vue psychologique ou sur la santé. Donc, situation de fragilité, situation de difficulté sur le plan professionnel, mais aussi, dans la demande existentielle, cette quête spirituelle à laquelle j'ai fait allusion, de personnes qui ne se satisfont plus du consumérisme et qui cherchent des réponses aux questions du sens, aux questions de l'absolu, d'une transcendance, des gens qui s'engagent dans une recherche spirituelle exigeante, non pas parce qu'elles sont plus fragiles que les autres, mais parce qu'elles sont plus sensibles aux questions radicales, aux questions de fondement. Et donc, celles-là, eh bien, elles s'engagent sur un chemin de recherche et de quête. Et cela renvoie aussi à la demande existentielle. Alors la demande culturelle, eh bien elle est liée au fait que dans l'enseignement, de moins en moins on a parlé de religion et de religieux. La situation en France pour ça est assez typique au nom de la laïcité, au nom de la neutralité. On n'en était plus à une neutralité, mais en fait à une ignorance, à une marginalisation systématique de la dimension religieuse par rapport à la sphère publique. Cela devient du privé, cela devient de l'associatif, si bien que un grand nombre de jeunes aujourd'hui sont des analphabètes culturels parce qu'ils sont des analphabètes religieux. On a complètement dissocié le religieux de la culture. C'est comme si vous pouviez comprendre le Maghreb sans rien savoir de l'islam et comprendre l'Égypte sans rien savoir des pharaons. Et on veut comprendre la société occidentale sans rien savoir du judéo-christianisme, au nom du respect des consciences. La conséquence, c'est un vide culturel important par rapport à des gens qui sont en recherche et qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient soignants, sont prêts alors à s'embarquer dans toutes sortes d'aventures spirituelles ou religieuses par manque de références et de formation. Combien de chercheurs scientifiques se sont retrouvés dans des sectes comme la gnose de Princeton ou dans des mouvements, on ne peut pas dire que la gnose de Princeton était une secte, mais par exemple dans le Mandarome ou le Temple solaire. Enfin, la demande idéologique, la crise du militantisme, beaucoup de gens ne trouvent plus de réponse, qu'ils se tournent vers la gauche ou qu'ils se tournent vers la droite. Le sentiment d'une grande insécurité sur le plan géopolitique, le sentiment que l'Occident est en train de perdre sa force et son contrôle, la fameuse théorie du clash des civilisations, du conflit des civilisations. Et donc, les fameuses divinités, si l'on peut dire, de la laïcité qui était la raison, la science, le progrès, ne répondent plus à la demande. Et c'est Jean-Paul Willem, un sociologue de la religion, qui parlait d'une laïcisation de la laïcité. Ce n'est plus une alternative aux grandes religions. Donc, crise de sens, crise de référence. On renvoie à des valeurs humanitaires. En France, il y a eu « Touche pas à mon pote » à propos du racisme. Il va y avoir un engagement pour des questions ponctuelles. Mais derrière tout cela, eh bien, les grandes questions de société ne sont pas abordées. Et l'on voit cela, entre autres, parce que les associations qui sont très très nombreuses et qui gèrent toute une série de petits problèmes locaux ou qui vont agir ponctuellement dans des projets humanitaires n'ont pas véritablement de réponse aux grandes questions mondiales. Aujourd'hui, ces associations se regroupent et vous avez des ONG qui vont se retrouver à Porto Alegre. Il y a certainement parmi nous des gens qui y étaient, parmi nos auditeurs. Et puis, il y a les grandes pressions qui se font par ces organismes humanitaires pour que les questions de société ne soient plus simplement traitées par les quelques grandes personnalités en vue du jet-set ou autre dans les grandes rencontres internationales, mais qu'on prenne aussi en compte une autre approche de la réalité. Et tout ça est aussi une explication de cette nouvelle quête spirituelle qui est parfois aussi idéologique et qui parfois débouche sur du thérapeutique. Thank you. Nous venons donc d'entendre comment, avec les évolutions contemporaines, cette quête spirituelle, cette quête thérapeutique est devenue quelque chose de très important pour les gens, parce qu'il y a une demande existentielle, on veut survivre. Il y a certainement des gens qui sont à l'écoute et qui savent bien que eh bien, c'est pas facile dans le monde d'aujourd'hui de s'en sortir lorsqu'on est fragile. Dans le fond, c'est ça la question. Est-ce qu'on a le droit de l'être ? Mais pas seulement du point de vue de la fragilité, il y a aussi, est-ce qu'on a le droit de penser autrement ? Est-ce qu'il faut penser de façon politiquement correcte, religieusement correcte ? Donc nous avons vu comment il y a la demande existentielle, cette demande culturelle. Tant de gens qui ne sont pas informés sur les religions, n'ont pas de critères pour évaluer une religion plutôt qu'une autre. Et une des conséquences de cette difficulté, c'est que lorsqu'on est confronté à une religion, pourquoi la religion de papa et maman plutôt que le chamanisme, plutôt que le bouddhisme ? Et nous allons voir comment il y a des gens qui vont passer d'une tradition à l'autre. Pourquoi pas ? Même certaines personnes vont aller jusqu'à être attirées par le satanisme ou par des pratiques de sorcellerie. Donc ce manque de références culturelles pose problème, et religieuse. Et puis, eh bien oui, je crois qu'une des grandes questions pour l'avenir de la société, c'est les questions politiques, les questions de lien, les questions de l'avenir, d'un ensemble, d'un vivre ensemble. Alors maintenant, je voudrais donner quelques éléments d'évaluation à propos de cette quête. Nous avons vu, elle est diverse, elle est récente, elle est multiple, et elle peut poser un certain nombre de questions. On peut l'approcher de façon assez négative, mais on peut aussi en voir le positif. Le danger pour des chrétiens, c'est globalement de considérer que cela n'a rien à voir avec le christianisme et qu'on n'a rien à en apprendre. Je reviendrai sur cette réaction-là. Ce que je voudrais d'abord, c'est souligner ce qui me paraît positif dans ces évolutions contemporaines. Un premier point que je sens très fort dans cette revendication aujourd'hui, c'est l'affirmation de la singularité de la personne comme un être unique et irremplaçable. Je suis unique, je désire être respecté, je ne veux pas simplement être un numéro de chambre, je ne veux pas simplement être un objet de soin, je désire pouvoir avoir quelque chose à dire par rapport à ma santé, je désire être respecté dans mon chemin spirituel. Avec bien sûr le risque de sombrer dans l'individualisme, mais entendons tout de même cet appel à la reconnaissance de la singularité. De même, pour un certain nombre de personnes, la reconnaissance d'une responsabilité par rapport à leur équilibre. Donc, le souci de faire un travail sur soi-même, le souci de se connaître, d'arriver à un équilibre de vie en faisant des choix par rapport à la santé, sur le plan spirituel. Alors qu'il y a d'autres personnes qui, au contraire, vont profiter d'un travail psychologique pour se déresponsabiliser. C'est toujours la faute des parents, c'est toujours la faute des pulsions, c'est toujours la faute du génétique, en se déculpabilisant, ou plutôt se déresponsabilisant complètement. Un autre point que je voudrais souligner, c'est cette quête d'intériorité. Bien qu'elle s'oriente pour le moment souvent hors appartenance religieuse, ce qui peut être regrettable lorsqu'elle risque de s'éparpiller et de butiner, mais il faut reconnaître qu'il y a un nombre croissant de personnes qui ne se contentent plus simplement de produire et de consommer, et que c'est une chance extraordinaire pour une ouverture de notre humanité vers des propositions et des dimensions spirituelles nouvelles. Je voudrais aussi souligner l'approche holistique, non pas dans le sens ésotérique, mais vous savez, dans le mot holistique, qui vient du mot grec global, complet, c'est l'idée d'une approche intégrale de la personne. Cette approche qu'on trouve dans de nouvelles dimensions, de nouvelles expériences thérapeutiques, qu'on retrouve aussi en spiritualité. L'homme n'est pas qu'une biologie, il n'est pas qu'une physiologie. La spiritualité n'est pas quelque chose de désincarné. Nous sommes un être avec un corps, une affectivité, une vie relationnelle, une insertion dans un environnement, une vie spirituelle, et tout cela a à voir aussi bien dans la santé que dans la spiritualité. Il y a des risques. Il y a d'abord le risque de narcissisme. Au début, il y a moi, à la fin, il y a moi. Et parfois, j'ai envie de vous poser la question, pour ceux qui sont très préoccupés de leur réalisation ou de leur éveil, quand tu seras réalisé, quand tu seras éveillé, qu'est-ce que tu vas en faire ? Et là, il y a un travail de discernement réaliste. Pour beaucoup de gens, cette quête spirituelle, cette quête thérapeutique est terriblement égocentrique. Qu'en est-il des autres? Qu'en est-il de la fraternité? Qu'en est-il aussi d'une transcendance? Parce qu'il y a des recherches complètement horizontales. Je veux guérir à tout prix. Je veux être bien dans ma peau. Je veux vaincre cette fameuse finitude, ce fameux défaut, ce fameux handicap, ce refus de la fragilité, ce déni de la mort, ce risque de toute puissance. Donc il faut faire attention. L'attention de prendre tout simplement la place de Dieu. J'y ai déjà fait allusion. Vous savez, quand on évacue Dieu, eh bien, il y a quelqu'un qui reprendra sa place. Et ça peut être moi, ou tel gourou que je mets à sa place. Donc, attention au déni de la finitude. Attention au déni de ma fragilité. Attention à la fuite de la réalité. Et du coup aussi, le risque de non-engagement social. Il n'y a pas tellement d'engagement humanitaire dans ces groupes de réalisation de soi. Il y a des moments très intenses de fraternité. Vous avez peut-être été à des week-ends où on faisait un travail sur le corps, sur soi-même, sur les autres, avec des massages, avec de la danse, avec du théâtre. Et ça fait un bien fou, et je crois que ça peut être très utile pour certaines personnes. Ça les aide à se connaître, ça les aide à se prendre en main. Mais après le week-end, terminé. Plus de contact, plus rien. Quel engagement éthique ? Quel engagement pour un monde plus fraternel, plus juste ? On dit ce monde, il fait plein de gens fragiles. Et puis les gens fragiles, il faut s'en occuper. Bien sûr, il faut s'occuper des gens fragiles. Mais il faut aussi s'occuper des causes de fragilité. Et le grand danger, justement, de ne pas prendre sa responsabilité dans le champ social. Et une des grandes tentations, c'est de s'installer dans des petits groupes qui se trouvent, qui retrouvent des gens qui sont bien entre eux, qui sont bien dans leur peau, ils font de mieux en mieux, mais en définitive, il n'y a pas d'engagement. Alors bien sûr, dans tout cela, l'Église est présente, elle est confrontée à cette question. Les Églises sont-elles capables d'accueillir un homme, une femme en recherche singulière, personnelle, qui essaie de trouver un sens à sa vie en étant profondément honnête dans cette quête et profondément personnelle, et souffrant sans doute de ce doute dont j'ai déjà parlé à propos des religions, à propos des églises, où on trouve qu'à cause du monothéisme, par exemple, les églises sont très monolithiques. Je vous parlais de l'impression que l'on a que dans les églises, on est ou bien dedans ou bien on est dehors. C'est tout ou rien, on accepte tout le credo ou on est dehors, éliminé, et il n'y a plus rien. Alors, ce regard, ce rejet du christianisme, ce rejet des églises à cause d'attitudes parfois doctrinales excessives ou dogmatiques ou trop moralisatrices n'est pas toujours juste. Ce qui n'empêche qu'il nous faut entendre la question. Et je crois que c'est très important. On ne peut rejoindre une quête spirituelle que dans les termes où elle s'exprime. Et donc cela suppose qu'il y ait cet effort de déplacement de la part des pasteurs, de la part des chrétiens, de la part des responsables d'église vers ces personnes qui sont en recherche pour entendre ce qu'elles disent. Il y a un travail de discernement à faire parce qu'il y a des gens en recherche qui nous disent « nous ne pouvons pas nous tourner vers vous » et il y a pourtant cette parabole que nous connaissons bien qui est celle de la brebis perdue. Mais on a un peu l'impression que les chiffres sont inversés. Ce n'est plus la question d'abandonner les 99 pour chercher celle qui est perdue. On a un peu l'impression parfois que dans les églises, on investit tout pour celle qui est encore là et on oublie les 99 qui vont ailleurs. Donc c'est un véritable défi d'un point de vue missionnaire, d'un point de vue théologique, d'un point de vue spirituel pour les églises. Et le danger évidemment, c'est de réagir en disant mais écoutez, de toute façon, ces gens-là, eh bien, ils se font plaisir, ils sont à la recherche d'eux-mêmes, mais ce n'est pas cela la bonne réponse. Et là, je voudrais mettre en garde contre la façon dont nous réagissons lorsque nous entendons des paroles ou des attitudes qui nous mettent en question. Il y a trois façons de réagir face à ce que, en sociologie, on va appeler une dissonance cognitive. Ça veut dire, vous savez, vous connaissez les dissonances musicales, ça sonne faux. Eh bien, il y a des paroles qui, moi, chez moi, peuvent sonner faux. Ça me gêne, ça me dérange. Par exemple, lorsque quelqu'un me dit « si on est dans un chemin spirituel, vrai et profond, il n'est pas possible de vivre ça dans le cadre d'une église. Si je suis chrétien pratiquant, je suis gêné, dérangé. » Alors, il y a trois réactions possibles. La première, Lorsque quelqu'un me dit quelque chose qui me dérange, c'est de dire « cette personne ne sait pas de quoi elle parle ». Elle est incompétente. Elle ne connaît pas le christianisme, elle n'a pas les éléments qu'il faut. Et je la disqualifie, et donc je ne bouge pas, je n'entends pas. Une deuxième réponse, c'est de minimiser ce qui est dit. Oui, ça peut arriver à telle personne, c'est tout à fait marginal. Vous savez, vous êtes un cas, vous avez peut-être, vous qui m'écoutez, eu déjà, vous avez peut-être entendu que vous étiez un cas, que vous étiez exceptionnel, que vous étiez même un peu déviant, mais en définitive, que vous ne représentiez que vous-même. Et vous avez l'impression de ne pas être respecté dans ce que vous dites parce qu'on minimise les enjeux pour ne pas bouger. Et c'est la tentation pour nous. Et je parle pour moi qui fait partie du clergé. Et puis une troisième attitude qui est, cette personne me dérange. Elle dit quelque chose qui n'est pas tout à fait juste, mais il y a peut-être une part de vérité qu'il faut que j'entende. Et là, j'ai peut-être à faire cet effort de me déplacer vers la personne qui parle. J'ai peut-être à faire cet effort d'entendre la part de vérité qui m'est renvoyée et de me poser la question, est-ce que véritablement, dans ma foi chrétienne, dans la façon dont le christianisme a été présenté et est encore présenté aujourd'hui, on prend suffisamment en compte le corps. On donne toute sa place à l'affectivité. On permet à la personne d'être en recherche et de se tromper. Est-ce qu'il y a un droit à l'erreur ? Est-ce qu'il y a un droit à une certaine progressivité dans la découverte du credo, des affirmations de foi ? Est-ce qu'on a le droit de faire un travail sur soi-même ? Est-ce qu'on a le droit de se trouver dans des groupes où il y a aussi un travail sur les émotions, sur la corporéité ? Il me semble qu'il y a comme un soupçon dans le cadre chrétien par rapport à ces questions, et que le grand danger, c'est justement pour éviter les excès du nombrilisme et de l'égocentrisme que l'on évacue la question qui est posée au christianisme. Est-il suffisamment incarné ? Comment se fait-il qu'une religion qui dit que Dieu est amour et qu'il s'est fait homme dans un corps de chair, eh bien que cette religion-là soit si circonspecte, pour ne pas dire soupçonneuse, par rapport à la sexualité, par rapport aux sentiments, par rapport au corps. Et ce sont des questions qui sont adressées aux chrétiens, et les chrétiens doivent les entendre et faire des propositions nouvelles.
Vous venez d'entendre « Marcher en creusant » avec le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.